Bonjour Sam. Aujourd'hui, on va se poser une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle là pour générer du code, même si on n'y connaît rien en développement? On va explorer ça. Voir comment ces fameux LLM, les grands modèles de langage, peuvent nous aider à créer un petit outil simple en Python. Python, c'est un langage assez abordable, hein?
Oui, tout à fait.
Et l'IA ferait le gros du boulot de rédaction du code. Pour cette exploration, on se base sur une présentation ou une démo assez claire de Benoît Rosé de Gretech France. On l'a trouvé sur YouTube. Il montre pas à pas comment il a fait.
Oui, c'est très concret comme source.
Exactement. Alors, notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu son expérience. Comprendre comment on choisit l'agonia, comment on prépare le minimum requis pour que ça tourne.
Et l'environnement, oui.
Voilà. Et puis suivre ce dialogue avec l'IA pour créer le code. Et enfin, voir comment on utilise le petit programme obtenu. L'exemple, ça sera ce script pour ranger automatiquement des fichiers.
Très pratique ça comme exemple.
Oui. Bon, alors allons-y. L'idée de fond, c'est de voir si ces IA peuvent devenir des sortes d'assistants sur mesure, quoi, pour nous simplifier la vie sur des petites tâches répétitives.
Sans avoir à passer des mois à apprendre à coder.
C'est ça. Alors, premier point, choisir l'IA. Le LLM, on parle bien de ces modèles qui réagissent à du texte, un prompt, pour générer, ici, du code Python. La source en a testé plusieurs, en version gratuite en plus.
Oui, et ça c'est important, le côté gratuit, ça rend la chose accessible. Alors d'après la présentation, ChatGPT, le plus connu,
Forcément.
il s'en sort bien, très correctement même, pour des tâches assez génériques. L'exemple du tri de fichiers, qui est une logique assez simple finalement.
Oui.
Ça a fonctionné assez vite. Bon, avec quelques allers-retours pour affiner, hein, c'est normal.
D'accord.
Mais là où ça devient intéressant, c'est quand ça se complique un peu. Sur des sujets plus pointus. Il mentionne l'exemple du format IFC.
Ah oui, l'IFC, c'est lié au bâtiment, non? Au BIM.
Exactement. Un format standard pour échanger des données de maquettes numériques. Et là, apparemment, ChatGPT a eu plus de mal. Il pouvait générer du code avec des erreurs et il entrait parfois dans des boucles. Il proposait des corrections, puis d'autres corrections sans forcément aboutir. Et sans dire clairement, là, je sais pas faire.
Ah, c'est intéressant ça. Donc, il est bon pour traduire une logique, mais moins pour des connaissances très spécifiques. Et Gemini de Google, alors?
Mais d'après la source, c'était assez similaire à ChatGPT. Efficace sur le général, mais voilà, avec des limites aussi sur le spécifique.
Ok.
Un truc potentiellement intéressant avec Gemini, c'est son intégration avec des outils comme Google Colab. Ça, c'est une plateforme en ligne pour faire tourner du Python.
Ah oui.
Ça peut rendre le test et la correction du code un peu plus fluide, peut-être.
Et Claude, d'Anthropique. Le présentateur avait l'air de bien l'aimer, celui-là.
Oui, alors lui, il ressortait comme le plus performant pour le code parmi les gratuits testés dans cette démo.
Ah, carrément.
Apparemment, il a réussi là où les autres patinaient un peu, notamment sur une histoire de compilation d'un outil pour ces fameux fichiers IFC. Le code qu'il a sorti était jugé plus direct, plus fonctionnel d'emblée.
D'accord.
Il a aussi mentionné qu'il existe une version payante, Claude Code, encore plus spécialisée là-dessus.
Mais qu'est-ce qui expliquerait cette différence, sans rentrer dans le technique, juste une intuition?
C'est toujours difficile à dire sans savoir comment ils sont entraînés exactement, mais on peut imaginer, hein. Peut-être que Claude a été entraîné sur plus de code, du code plus récent, ou avec un accent mis sur la qualité, la logique du code généré. Chaque modèle a ses points forts, quoi. Ça dépend des données d'entraînement, des objectifs des créateurs.
Et Mistral AI, le français, il en dit quelque chose?
Juste mentionner rapidement, pas de test poussé dans la source pour cette tâche précise. L'impression du présentateur, c'était qu'il était peut-être un peu moins à l'aise sur le code à ce moment-là, mais bon, c'était plus une supposition.
D'accord. Donc au final, le choix de l'IA est important, mais ce qui compte surtout, c'est la méthode, non? Il faut s'attendre à devoir discuter, quoi.
C'est exactement ça, l'itération, c'est le mot-clé.
On n'a pas la solution parfaite du premier coup.
Non, jamais, ou rarement. C'est un dialogue. On demande, on teste, on voit ce qui ne va pas, on redemande, on précise. C'est une collaboration, en fait.
Une conversation technique.
Voilà. Et le fait de pouvoir faire ça avec des outils gratuits, c'est quand même assez fou.
Oui, c'est vrai. Bon. Ok, on a choisi notre IA, on a notre idée de script, maintenant il faut le faire tourner ce code, il faut cet environnement d'exécution. C'est quoi le plus simple pour quelqu'un qui part de zéro?
Ben oui, c'est l'étape d'après. Le code Python, il a besoin d'un interpréteur pour le lire et l'exécuter, et parfois de bibliothèques, des bouts de code déjà faits pour des tâches précises, genre manipuler un fichier Excel.
D'accord.
L'idée, c'est d'éviter les grosses usines à gaz, les IDE professionnels comme Visual Studio Code, PyCharm. C'est super complet, mais ça peut faire peur au début.
Ouais, je vois.
La source propose deux options bien plus simples. La première, Google Collab.
Ah oui, vous en parliez pour Gemini.
C'est ça, tout en ligne. Gros avantage, zéro installation sur la machine. On lance ça dans son navigateur avec un compte Google.
Nickel pour tester vite fait.
Exactement. Des pas mal de bibliothèques utiles sont déjà là. Et il y a Gemini qui peut aider à corriger si besoin.
Mais attends, si mon script doit trier mes fichiers qui sont sur mon PC, dans mon dossier de documents par exemple, avec Collab, ça marche comment? Faut tout envoyer en ligne.
C'est ça le hic pour cet usage précis. Il faut uploader les fichiers sur Collab ou les mettre sur Google Drive et connecter les deux. C'est pas hyper direct si on veut juste faire le ménage dans un dossier local.
Ok.
Et un autre petit point, si on essaie de transformer le script Collab en un fichier .exe, un exécutable pour Windows, le fichier final peut être énorme. Parce que Collab embarque plein de choses par défaut.
D'accord, pas idéal. C'est quoi l'alternative locale alors?
C'est de créer un environnement virtuel sur son propre ordi. L'installation sous Windows, c'est assez minimaliste. Et la source dit que ChatGPT, par exemple, peut guider l'utilisateur pas à pas pour le faire. Genre, tape ça, clique là.
Ah, l'IA peut même aider pour ça, ouais.
Oui, oui. Et l'avantage énorme, c'est qu'on travaille direct avec les fichiers sur son disque dur. Pour l'outil de tri, c'est beaucoup plus logique.
Carrément.
Et si, plus tard, on veut faire un exécutable, il sera bien plus léger en général.
Le seul inconvénient, c'est cette petite étape de configuration au début, même si on est guidé.
C'est ça. Un peu moins immédiat que Collab, où il n'y a rien à faire, faut taper deux ou trois lignes de commande au début. Mais c'est très cadré.
D'accord.
En gros, ces deux options, Collab en ligne et l'environnement virtuel en local, elles rendent l'expérimentation beaucoup plus facile qu'avant, sans avoir besoin des gros logiciels de développeurs.
C'est clair. Bon, alors venons-en à l'exemple concret. Cet outil de tri de fichiers fait avec ChatGPT. Rappelez-nous ce qu'il fait exactement.
Alors, c'est un script Python. On lui donne le chemin d'un dossier.
Et il va regarder tous les fichiers dedans.
Et dans les sous-dossiers aussi.
Optionnellement, oui.
Il va demander. Et ensuite, il range les images ensemble dans un dossier images, les fichiers de projet Revit, les points RVT.
Les maquettes de bâtiments.
Dans un dossier Revit.
Les familles Revit, les points RFA, qui sont des composants.
Porte-fenêtres, ce genre de choses.
Voilà. Dans un dossier famille, les dessins AutoCAD, les points DWG dans AutoCAD, et pour tout le reste.
Les PDF, les Word. Il crée des dossiers par extension. Un dossier PDF, un dossier DOCX, etc. Il gère même les fichiers qui n'auraient pas d'extension.
Pas mal. Et ce qui est vraiment instructif, c'est comment il a été construit ce script. Le dialogue avec ChatGPT, vous pouvez nous résumer les étapes?
Oui, c'est ça qui est super intéressant. Ça montre bien le processus itératif. Alors, en gros, 1. Le prompt initial, c'était simple. Fais-moi un script Python qui trie les fichiers images, RVT, RFA, WG dans des dossiers spécifiques et le reste par extension.
OK.
ChatGPT a sorti un premier code, fonctionnel, mais le chemin du dossier était écrit en dur dans le code. Pas très pratique.
Non.
2. Rendre le chemin dynamique. L'utilisateur demande. Il faudrait que le script me demande le chemin quand je le lance. Hop, l'IA modifie. Ajoute une fonction input.
Logique.
3. Gérer les sous-dossiers. Là, c'est l'IA qui demande. Est-ce qu'il faut aussi traiter les sous-dossiers? L'utilisateur dit oui. L'IA adapte le code pour qu'il explore tout de manière récursive.
Malin.
4. Options et précisions clés. L'IA suggère même. On pourrait demander au début si on veut traiter les sous-dossiers ou juste le dossier principal. L'utilisateur dit OK, et là il ajoute un truc crucial. Attention, les fichiers dans les sous-dossiers, il faut les trier dans ces sous-dossiers, pas tout remonter au niveau principal.
Ah oui, important ça, pour pas casser toute l'arborescence.
Exactement. Et l'IA comprend et ajuste le code. 5. Un petit rapport. L'IA propose un résumé à la fin. L'utilisateur dit « Ce serait mieux d'avoir ça dans un fichier Excel, à la racine du dossier traité, pour garder une trace. » L'IA intègre ça, elle ajoute même la bibliothèque nécessaire pour gérer Excel.
Bluffant.
6. Et enfin, un bug pratique. L'utilisateur se rend compte qu'en copiant-collant le chemin depuis l'explorateur Windows, ça ajoute des guillemets qui font planter le script.
Ah oui, le copier-coller Windows.
Voilà. Il demande à l'IA de gérer ça. Et l'IA corrige le script pour qu'il ignore ses guillemets.
C'est fou cette collaboration. On dirait vraiment une discussion avec un assistant développeur, quoi. On précise, on corrige, et l'IA s'adapte, elle propose même des améliorations.
C'est tout à fait ça. C'est le point fort de la démo. Montrer l'IA comme un partenaire. On part d'une idée simple, on la confronte à l'IA, on teste, on ajuste, on enrichit. L'IA n'est pas juste un exécutant. Elle aide à construire la solution.
Ok, alors on a notre code final, bien peaufiné grâce à ce dialogue. Comment on l'utilise concrètement? Dans la démo, il fait comment?
C'est très simple. Il copie tout le code final depuis l'interface de ChatGPT.
Le gros bloc de texte.
Oui.
Il le colle dans un éditeur de texte basique, genre le bloc-notes.
Ok.
Puis, il enregistre ce fichier. Il lui donne un nom, genre organisateur fichier, et surtout, il change l'extension .txt en .py.
Organisateur fichier .py, d'accord.
Et après, on lance ça comment? Si on a choisi l'environnement virtuel local, on ouvre l'invite de commande, on navigue jusqu'au dossier où on a mis le fichier .py et où l'environnement est activé, et on tape juste Python organisateur fichier .py.
Et là, le script se lance et il nous pose les questions.
Exactement. Il affiche le message « Entrez le chemin du dossier à traiter », l'utilisateur colle le chemin, ensuite il demande « Traiter les sous-dossiers, oui/non ». L'utilisateur répond, appuie sur « Entrée ».
Et la magie opère.
Et le script fait son travail de tri, comme on l'a défini ensemble. Et dans la source, ça a bien fonctionné? Le résultat a été bon?
Oui, la démo le montre. Les fichiers sont bien allés dans les bons dossiers. Images, Revit, PDF. Même dans les sous-dossiers si l'option était activée. Et le petit fichier Excel récapitulatif était bien là, à la racine.
Mission accomplie, donc.
Pour cet outil-là, oui. Le présentateur ajoutait d'ailleurs qu'on pourrait encore l'améliorer.
Ah oui? Comment?
Ben, imaginez une option pour ignorer certains fichiers, comme les sauvegardes automatiques ou les modèles sans trop Revit, ou affiner le tri, peut-être séparer les projets Revit des familles, ou personnaliser le rapport Excel.
On peut continuer le dialogue avec l'IA, en fait.
Exactement. C'est ça qui est puissant. On peut toujours revenir et l'adapter.
Bon, si on prend un peu de recul maintenant, qu'est-ce que toute cette expérience nous dit sur le potentiel de l'IA pour nous aider à coder au quotidien?
Je pense que le message principal, c'est une forme de démocratisation. Vraiment, des outils comme ChatGPT, Claude, Gemini, ils rendent la création de petits scripts personnalisés beaucoup plus accessible.
On n'a plus besoin d'être un crack en programmation.
Pour des tâches simples mais répétitives, non. Le développement devient plus une conversation. On exprime un besoin en langage naturel et l'IA aide à le traduire en code. Même si ce code, il faut le vérifier, le tester, l'ajuster.
Donc les ingrédients du succès, ce serait...
Bien choisir son IA selon la complexité.
Oui, une IA plus pointue comme Claude si c'est très spécifique ou une plus généraliste pour démarrer.
Préparer un environnement simple mais adapté. Collab pour tester vite l'environnement virtuel pour le local.
Et surtout, maîtriser ce dialogue itératif. Bien formulé, testé, précisé, sans se décourager si ce n'est pas parfait du premier coup.
C'est exactement ça. La clarté de la demande initiale, la précision des retours, c'est essentiel. Et accepter que l'itération, c'est la norme. Ce n'est pas un échec, c'est juste comme ça que ça marche.
L'IA est un super assistant, quoi. Un accélérateur.
Voilà. Pas encore un magicien qui lit dans nos pensées, mais un assistant très capable.
C'est passionnant tout ça. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. En voyant cette facilité, relative bien sûr, à créer un petit outil sur mesure comme ça, quelles sont les petites tâches pénibles, répétitives, dans notre travail, dans notre quotidien, qui pourrait être automatisé maintenant?
Bonne question.
Quels petits problèmes on laissait de côté parce qu'on ne savait pas coder ou qu'on n'avait pas le temps et qui pourraient maintenant trouver une solution grâce à ce dialogue avec une IA? Ça ouvre des perspectives, non?